VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
11h en temps universel, bonjour à tous. Tremblement de terre ce lundi en mer Rouge au large des côtes égyptiennes dans le golfe d'Aqaba. C'est ce qu'a indiqué l'Institut américain de géophysique, l'USGS. Sans aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat. De faibles intensités, le séisme a toutefois été ressenti au Caire. Selon la même source, le séisme de magnitude 5 s'est déclenché peu avant l'aube à 25 km au nord-est de la station balnéaire de Dahab, située dans la péninsule du Sinaï, a précisé le site internet de l'USGS. L'épicentre se trouvait à une profondeur de 10 km. Des ministres des Affaires étrangères européens, des États-Unis et des pays voisins de la Libye se réunissent aujourd'hui à Vienne pour discuter du chaos qui règne dans ce pays miné par les divisions politiques et la menace djihadiste. Cette réunion se déroule à un moment crucial. D'une part, les djihadistes du groupe État islamique ont récemment étendu leur influence à l'ouest de la ville libyenne de Sirte, qu'ils contrôlent depuis 2015. D'autre part, le gouvernement d'Union nationale parrainé par l'ONU peine à asseoir son autorité plus d'un mois et demi après avoir pris ses fonctions à Tripoli. Au Comores, c'est officiel depuis hier, l'ex-putschiste Azali Assoumani a été élu président, selon les résultats proclamés donc par la Cour constitutionnelle. Lionel Gaïma.
La Cour constitutionnelle a proclamé hier Azali Assoumani président de l'Union des Comores pour un mandat de 5 ans. Il a obtenu plus de 41% de voix et son rival Mohamed Ali Sohili, dit Mamadou, plus de 39% de suffrage. Azali Assoumani était arrivé légèrement à la tête du deuxième tour le 10 avril. Ce scrutin a été émaillé d'actes de violence. La justice comorienne avait donc ordonné la tenue d'une partie dans 13 bureaux et Assoumani a conforté son avance. Le camp de Mamadou a reconnu sa défaite. Le nouveau président sera investi le 26 mai. Cet officier de 57 ans va retrouver le palais présidentiel pour la seconde fois. Il y avait déjà vécu après un putsch en avril 1999, alors que le pays traversait une crise sécessionniste. Il était resté au pouvoir jusqu'en 2006 avant de le céder à Ahmed Abdallah Sambi. Ses détracteurs aiment rappeler qu'en 1995, lors d'un affrontement armé avec les mercenaires conduits par le français Bob Denard, Azali Assoumani avait abandonné ses hommes pour se réfugier à l'ambassade de France.
En République démocratique du Congo, trois plateformes d'opposition appellent à des manifestations dans tout le pays le 26 mai pour dénoncer un arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester au pouvoir à la fin de son mandat. La justice a autorisé M. Kabila à rester dans ses fonctions si la présidentielle n'est pas organisée avant la fin de son mandat le 19 décembre 2016. Au Nigeria, les syndicats ont appelé à une grève illimitée mercredi pour protester contre l'augmentation soudaine du prix de l'essence à la pompe. Idriss Fall.
Le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont donné au gouvernement jusqu'à demain mardi à minuit pour réviser entièrement la hausse du prix de l'essence. Ces puissantes centrales syndicales avertissent que le débrayage devrait affecter les banques, ports et aéroports, les marchés et administrations. Bref, menace d'une paralysie totale. Mercredi, Abuja a relevé les prix du carburant de 67%, passant de 86 à 145 naira. Une hausse vertigineuse après des mois de pénurie. Pendant des mois, il y avait de longues files d'attente devant les stations d'essence. Le pays manque de devises étrangères car subit de plein fouet la baisse des cours du pétrole qui fournit 70% des revenus. Le premier producteur de pétrole du continent est contraint d'importer son carburant pour maintenir un bas prix à la pompe. Le gouvernement paye une subvention. En janvier 2012, Abuja avait tenté de mettre fin à ces subventions. Il s'en était suivi de violentes manifestations qui avaient obligé le gouvernement à renoncer à la mesure.
Direction le Mali pour le dossier de ce journal. Le gouvernement de Bamako et les groupes armés, notamment dans le nord du pays, ont signé un accord de paix. C'est vrai que les groupes armés ne sont plus actifs sur le front, mais ils n'ont pas accepté le cantonnement de leurs hommes. Les attaques terroristes se sont multipliées sur le territoire malien. Que pensent les Maliens du processus de paix un an après? Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré.
Un an après la signature de l'accord pour la paix, les autorités maliennes ne désespèrent point. Elles souhaitent une lutte plus accrue contre le terrorisme. Modibo Keïta, premier ministre du Mali.
Personne ne peut prouver que les mouvements armés signataires de cet accord sont entrés en belligérance avec l'État du Mali, avec les femmes, avec les populations. Cela est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation a permis d'isoler une autre frange qui ne vit qu'à travers la violence et qui ne s'attaque qu'aux populations. Et qui ne trouvent devant eux que le gouvernement et les mouvements armés et les populations. C'est quand même les djihadistes et les terroristes. Cela appelle une espèce d'union sacrée. Et cette union sacrée ne peut être l'œuvre d'aucun démembrement, mais de l'ensemble des démembrements.
Certes, la lutte contre le terrorisme doit être une priorité, mais les instruments qui doivent faciliter la mise en application de l'accord tardent à se mettre en place. Et la confiance entre les protagonistes de la crise est plus que précaire. Bruno Loma, journaliste.
Je pense que nous sommes presque à la case de départ. Le comité de suivi a eu du mal à s'installer et a du mal à travailler. Le cantonnement peine aussi à arriver. On avait fondé l'espoir sur l'entrée de la plateforme, notamment de Gatia à Kidal, et de l'accord signé entre la plateforme et la CEMA. On avait l'espoir donc que les choses allaient bouger, mais c'est toujours le statu quo. Et on avait surtout l'espoir qu'avec la tenue du forum de Kidal, les lignes allaient beaucoup plus bouger. Et jusque-là, on ne voit rien.
Seydou Koulibaly, étudiant à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Bamako.
Je peux dire que l'accord a été signé, mais l'objectif de l'accord n'a pas été atteint. Même le lendemain de l'accord où il y a eu des attaques. Donc je peux dire de tous les jours aussi il y a des attaques. Il y a des vies de perte aussi. Donc je peux dire que l'objectif n'a pas été atteint. Si vraiment la communauté internationale peut veiller sur nous encore, ça ferait mieux vraiment. Sinon l'objectif n'a pas été atteint.
Aujourd'hui, les ex-rebelles refusent toute question de cantonnement tant que les autorités intérimaires ne sont pas mises en place. Une loi a été adoptée dans ce sens, mais tarde à être concrète sur le terrain. Mohamed Hadj Erlaf, ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État.
L'installation des autorités transitoires sur l'ensemble du pays pour pouvoir régler les cas particuliers et provisoires des régions du Nord. Avantage, nous allons mettre en place des collèges qui vont permettre d'abord le retour de l'administration d'État dans des zones qui n'ont pas été gérées depuis 4 ans. Avantage, ces autorités vont permettre le retour des réfugiés et des populations déplacées. Elles vont permettre la révision des listes électorales. Elles vont permettre une organisation sereine et inclusive des futurs échéances électorales. Elles vont permettre une participation plus grande sur le référendum constitutionnel que le gouvernement compte organiser.
De 2012 à nos jours, la crise malienne a fait plus de 1000 morts, civils et militaires. 80 casques bleus et une douzaine de soldats français ont aussi perdu la vie. Malgré la signature de l'accord, les attaques terroristes continuent sur le terrain et n'épargnent aucune force en présence au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afghanistan, la capitale Kaboul, était complètement paralysée ce lundi par une manifestation de milliers de Hazaras, une minorité chiite, contre le tracé d'une future ligne à haute tension qui ne passe pas par le fief. Cette mobilisation pourrait dégénérer en une crise politique qui accentuerait les difficultés d'un gouvernement déjà affaibli par le marasme économique et l'insurrection talibane. Les forces de sécurité ont bloqué les principales intersections de la capitale avec des conteneurs empilés, tandis que les manifestants tentaient de défiler jusqu'au palais présidentiel. Les forces irakiennes ont lancé lundi une offensive pour reprendre aux djihadistes du groupe État islamique la ville de Rutba, dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. C'est ce qu'a indiqué le commandement conjoint des opérations en Irak. Rutba, à plus de 400 km à l'ouest de Bagdad, est située sur la route principale reliant la capitale irakienne à la frontière jordanienne. La ville est tenue par l'État islamique depuis l'année 2014.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Voilà, les forces de sécurité turques ont, elles, interpellé 7 personnes présumées du groupe État islamique. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs médias locaux. Parmi les personnes arrêtées se trouve un bourreau présumé de l'État islamique ayant procédé à des exécutions pour le compte de l'organisation en Syrie, selon l'agence de presse Anatolie, qui identifie par ses initiales FS. De nombreux documents ont par ailleurs été saisis, a ajouté l'agence. Et puis pour terminer, le président brésilien par intérim Michel Temer a affirmé dimanche qu'il jouit d'une certaine légitimité constitutionnelle, même si seule une bonne gestion lui permettra de gagner le soutien populaire. 3 jours après la mise à l'écart du pouvoir de Dilma Rousseff. Jean-Roger Billon, le prochain journal, ce sera avec Henri Francis dans 50 minutes. Bon après-midi sur le continent. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.